foi et le partage.
Et le dernier engagement que j'ai conservé. J'ai tout laissé tomber, mes retraites que je prêchais, je ne fais plus de confirmation parce que ma mobilité a diminué. J'avais coutume de dire, un peu à la blague, aux gens qui me disaient, puis comment ça va? Je leur disais, bien, pour le moment, j'ai de plus en plus de misère à marcher. Mais, parfois, ils m'interrompaient pour dire, mais la tête a l'air à bien fonctionner. Et je leur répondais, quand c'est la tête qui fonctionne mal, c'est les autres qui s'en aperçoivent. Vous allez probablement vous en apercevoir, mais je pense que c'est pas encore trop gâté parce que je suis capable de m'en apercevoir moi-même déjà. Je suis pas sûr qu'il en soit ainsi dans quelques années, si Dieu me prête vie encore. Je suis quand même très reconnaissant au Seigneur. J'aurai 89 ans au mois de novembre. J'aime à dire, surtout quand je parle aux dames, je suis particulièrement fier d'avoir dépassé déjà de 2 ou 3 ans, même l'espérance de vie des dames, qui est pas mal plus élevée que celle des hommes, comme vous savez. Alors, j'ai pas à me plaindre loin de là, même si je vois les choses là, évoluer et que je dois développer la spiritualité qui est tout à fait typique de Monseigneur de Laval, celle de la désappropriation. C'est pas un mot qu'on emploie tous les jours, mais c'est un mot qui est très, 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 très expressif. Se désapproprier, ce que ça veut dire habituellement, c'est se détacher d'un objet, qu'on vend quelque chose, qu'on donne quelque chose, on se désapproprie. Ça n'est plus sa propriété. Mais ça a un sens moral aussi, hein. Et ça, c'est parfois plus difficile de se désapproprier de ce à quoi on tient beaucoup, d'accepter que nos capacités diminuent et de pouvoir ainsi davantage vivre la spiritualité, de ce que j'appelle la spiritualité du serviteur inutile. Ça, c'est une expression de l'Évangile que je trouvais toujours un peu difficile à accepter. Le Seigneur qui dit, là, faut que vous acceptiez que vous soyez des serviteurs inutiles. C'est tellement en nous de nous sentir utiles. Et puis, qu'on le veuille ou non, hein, on choisit sa vocation, on choisit ses engagements avec la préoccupation d'être utile à quelqu'un ou à quelque chose. Alors, quand le Seigneur nous dit, vous êtes des serviteurs inutiles, je trouve ça dur à accepter. Mais je dois vous dire que dans l'évolution que je connais actuellement, au contraire, je trouve jusqu'à quel point ça peut être soutenant, cette vision du serviteur inutile. Ça n'empêche pas d'être serviteur, et on doit continuer à l'être. Mais en se disant que le Seigneur veut avoir besoin de nous, mais qui n'a pas vraiment besoin de nous. Et on se rend compte que parfois des personnes très humbles, très modestes, vont avoir une influence beaucoup plus grande que celle de personnes intelligentes. Moi, ce que je trouve triste, c'est quand je vois quelqu'un qui a brillé intellectuellement ou qui a eu un grand pouvoir politique ou autre et qui là est condamné à ne plus utiliser ça, alors que ça les a fait vivre. Ça doit être difficile. Mais lorsqu'on a travaillé pour le Seigneur, qu'on sait qu'il a voulu avoir besoin de nous, mais qu'il suscite d'autres personnes pour le faire à notre place, à ce moment-là, il n'y a plus de raison qu'on s'inquiète. Et puis, ben, on se laisse, on abandonne graduellement les choses qui nous tenaient beaucoup à cœur, et sans que ça soit dramatique. Bon, alors, pour ma part, j'en suis là à l'heure actuelle. Par ailleurs, je dois vous dire que quand on sent qu'on ne peut plus compter sur nos talents pour être utiles, tout au moins de moins en moins, on s'aperçoit que autour de nous, il y a des choses extraordinaires qui surgissent, qui apparaissent. Et pour ma part, je vais vous faire une confidence. Tous les matins, quand je me réveille, je m'assois au bord de mon lit, et ça remonte à ma mère qui m'avait appris ça. Elle m'avait appris une petite formule de prière pour saluer le bon Dieu quand je me réveillais le matin. J'ai changé un peu la teneur de ma prière, mais maintenant, c'est tout simplement une action de grâce, un merci profond au Seigneur pour m'avoir fait vivre assez longtemps pour connaître deux événements que je considère comblants pour notre Église et pour moi, en tout cas, tel que je le perçois. Le premier événement, c'est l'élection du pape François. Quel homme extraordinaire! Quel homme qui, en l'espace de 2 ans, semble en avoir fait autant qu'on pourrait en attendre de lui pendant 10 ans. Tout ce qu'il a amorcé, tout ce qu'il a publié, quand on pense surtout aux effets que ça produit, et je vous parlerai d'ailleurs, avant d'aborder le sujet un peu, de son exhortation apostolique et de son encyclique qui vient de paraître, dont j'ai lu le texte avant même qu'il paraisse, parce qu'on l'envoie aux évêques avant que ça devienne officiel, en prévision des questions que les journalistes peuvent nous poser. Merci Seigneur pour cet homme extraordinaire que tu as placé à la tête de notre Église. Déjà, tu l'as rapproché, cette Église, des petits et des pauvres, à travers sa personne. Et ça, pour moi, là, c'est l'objet de mon action de grâce. Et puis, bien, les deux autres, vous l'auriez peut-être mieux deviné jusqu'à un certain point, c'est la canonisation inattendue de Monseigneur de Laval et de Marie de l'Incarnation. Quand on est le 22e successeur de Monseigneur de Laval, qu'on a souhaité de tout cœur qu'il soit canonisé, mais on ne voyait plus rien quasiment à l'horizon. Puis je me souviens d'avoir parfois morigéné un peu les prêtres pour leur dire, si on avait la foi, là, si on y croyait à Monseigneur de Laval, me semble qu'on l'aurait fait connaître. Et puis, ça aurait attiré le miracle qu'on attend, toujours ce fameux miracle qui est essentiel pour une canonisation. Et voilà que tout à coup, alors que personne ne s'y attendait, moi non plus, je l'ai appris un peu avant tout le monde parce qu'on m'en a prévenu. Et puis, j'ai eu à fournir de la documentation là, pour préparer les derniers documents nécessaires pour que ça soit soumis aux cardinaux puis que ça soit accepté. Là. Bien, je peux vous dire que pour moi, ça a été un clin d'œil du ciel, ça. Que Monseigneur de Laval soit canonisé et que je sois encore là, alors que j'ai dépassé de loin l'espérance de vie des hommes, ça, pour moi, c'est une faveur extraordinaire. Et ça n'est rien à côté de ça, là, ma perte d'énergie, mes difficultés de santé, là, ça n'est rien à côté d'une faveur comme celle-là. Et j'en dirais autant de Marie de l'Incarnation. Je ne sais pas si on est conscient de l'immensité de cette personne-là. Au plan de sa sainteté et de sa spiritualité, je dirais même que je la mets au-dessus de Monseigneur de Laval. Monseigneur de Laval avait des limites, même au plan de l'expression. Son français était un peu élémentaire, je dirais, parce qu'il avait étudié en latin, Puis le français là, venait juste d'être un peu lancé. Marie d'Incarnation, très rapidement, par la lecture qu'elle faisait des auteurs modernes du temps, là, puis qui avaient vraiment amélioré la langue, elle a une langue admirable. Déjà, Bossuet, le grand Bossuet, l'appelait la Thérèse des Amériques de son vivant. N'oubliez pas ça, de son vivant à Marie d'Incarnation, Bossuet disait, Marie d'Incarnation, c'est la Thérèse des Amériques. Il parlait de Thérèse d'Avila, la grande mystique, parce qu'il avait pris connaissance de sa correspondance, de certains de ses écrits, qui sont absolument sublimes. Alors, c'est important pour nous, ça. Hein? Ça a marqué les débuts de notre Église. Ça fait partie des richesses de notre Église. Et que tout à coup, notre pape François décide de dire, bien, le miracle qui est exigé habituellement, mais le miracle est déjà là, parce que ce qu'a accompli Monseigneur de Laval pour implanter l'Église au Canada, ça a été un miracle. Puis qu'une femme comme Marie de l'Incarnation, après avoir été mariée, mère d'un enfant, est entrée chez les Ursulines et à l'âge d'une trentaine d'années à peine, décide de s'en venir ici au Canada alors que ça commençait puis qu'il n'y avait rien, il ne faut pas se dire ça. Là. Mais ça, là, c'est tellement extraordinaire. Alors, bon, je laisse parler mon cœur un peu, là, mais je tenais à vous dire ça au départ, à la fois pour expliquer que, de fait, il y a une limitation dans mes capacités, mais que, d'autre part, spirituellement parlant, je vis ça avec beaucoup, beaucoup de reconnaissance au Seigneur et sans aucune, je dirais, mauvaise nostalgie ou avec des regrets ou je sais pas quoi, là, mais pas du tout. Hein, pas du tout. C'est loin de me rendre triste, un peu comme, je le dirais, de la résurrection. La résurrection du Seigneur, lorsque ça a été dans les premières phases, ça a engendré de la tristesse. Il n'était plus là. Il était mort, puis il n'était même plus dans son tombeau. C'était la tristesse absolue. Et pourtant, la résurrection deviendra la grande source de joie. Bien, dans nos vies, c'est souvent comme ça. Ce qui nous arrive peut être vu comme de la tristesse, selon les dispositions qu'on a pour l'accueillir, mais ça peut être vu aussi comme une grande grâce. La grâce de la désappropriation, la grâce d'un détachement, d'un dépouillement qui fait que on est comme obligé de s'en tenir à l'essentiel et puis de ne plus se croire si important que ça, de croire que notre Église va continuer elle-même à grandir malgré le fait qu'elle paraît elle aussi avoir ses problèmes, puis elle paraît même se désagréger parfois. Ça prend de la foi pour croire que l'Église, malgré ça, progresse. Et moi, je suis convaincu qu'elle progresse. Je suis convaincu de ça. Elle progresse, mais les fruits de ce progrès ne sont pas toujours sensibles. Et ça, c'est tout à fait dans ce que j'appellerais la recette du Seigneur. De faire en sorte que les épreuves qu'on traverse soient semeuses de progrès, semeuses de grâce. Qu'on ne s'en rende pas compte tout de suite, mais que ça se produise quand même. L'histoire de l'Église peut se résumer comme ça. L'histoire de l'Église se résume comme ça. Elle a passé par toutes sortes d'épreuves énormes. Mais chaque fois, ces épreuves ont amené l'Église à se purifier. Je vais vous donner rien qu'un exemple. Au 15e siècle, la papauté passait par une période que je qualifierais de scandaleuse. c'était toujours des cardinaux de deux familles nobles qui étaient nommés papes. C'était comme une alternance. Et puis, les cardinaux embarquaient là-dedans. Ça nous a amené des papes qui étaient loin d'être édifiants. Or, c'est durant cette période-là, c'est pas longtemps après ça, que l'Église a été rénovée, non pas par la tête, ça a pris du temps avant que la papauté là, sorte de ce bourbier-là. Elle s'est sanctifiée, elle s'est redressée grâce aux grands saints qui ont été au XVIIe siècle, qui ont été Saint Vincent de Paul, Saint Jean Eudes, entre autres. Et puis avant ça, il y avait eu Thérèse d'Avila. Et c'est ça, hein. Quand on passe par de l'épreuve, on ne voit pas les fruits que ça peut avoir. Mais les fruits se manifestent plus tard. Et puis là, on est en mesure, avec le recul, on est en mesure, comme historien, de dire... Mais c'est donc extraordinaire, comment est-ce qu'on a rebondi. Et le miracle de notre Église au Canada, c'est que dès ses débuts, alors que la petite colonie française était bien faible, bien branlante, que le Seigneur est suscité chez les franciscains, les récollets, les jésuites, les augustines, les ursulines, avant même Monseigneur de Laval, avant même qu'on nomme un évêque, il y avait une proportion de religieux et de religieuses par rapport à la population qui est plus forte que ça n'a jamais été. Pourtant, on a eu des communautés religieuses par la suite, là, hein. Mais la proportion par rapport à la population du temps était que les religieux, les religieuses, les prêtres occupaient une place énorme, proportionnellement énorme. Et c'est ça qui a assuré la vitalité de notre Église, mais je dirais même la survie de la Nouvelle-France, marqué par la religion catholique et marqué par la civilisation française. Et il faut être fier de ça. Mais sur le moment, c'était pas toujours sensible. Même pendant 4 ans, là, on a été battu par les Kirk, là, la Nouvelle-France est passée comme propriété anglaise. Puis c'est lors d'un traité après que l'Angleterre a dit « Oh, ben, c'est pas intéressant, là, on va redonner ça aux Français. » On en a marchandé ça. On était menacés d'extinction purement et simplement. Mais c'est à cette époque-là que des jésuites, puis des récollets, puis un peu plus tard des ursulines et tout, ont tenu le coup. Et c'est ça qui a permis que la Nouvelle-France... et dans sa foi et dans sa culture française ont pu tenir le coup. C'est quelque chose, ça, hein? Et pourtant, c'était difficile à vivre. Au milieu de toutes sortes d'épreuves, Monseigneur de Laval construit son séminaire, puis ça brûle. Marie d'Incarnation bâtit son couvent, puis ça passe au feu. Évidemment, il était exposé à ça. Il fallait bien qu'il se chauffe un peu, puis il n'y avait pas les moyens qu'on a, alors il y avait des poêles et tout, à un moment donné, le feu prenait, tout était construit en bois, il n'y avait pas d'autres matériaux. C'est incroyable le nombre d'incendies qui ont marqué les débuts de la colonie. Comment avoir à cette fois pour dire « on repart, on rebâtit, puis on tient le coup ». Moi, pour ma part, le fait de constater ça, c'est une source de grande joie chez moi. Et puis, je dirais que c'est dans un peu le prolongement de ce que je vais vous dire maintenant. en étant davantage proche de la parole de Dieu. Alors, ce que je vais essayer de vous démontrer, puis j'aurais envie de dire, là, oubliez tout le reste, là, tous mes bavardages, là, mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est ceci. La foi en la résurrection du Christ et la foi dans notre résurrection à nous, c'est la source majeure de notre joie. Je le répète. La foi dans la résurrection du Christ et dans notre propre résurrection que le Christ nous a promis, c'est la source, ça devrait être la source majeure de notre foi. Et si vous partez avec ça, là, et puis que ça devient, je dirais, ça fait partie de votre trésor, là, bien moi je dis, j'aurais pas perdu ma journée, puis vous non plus. On va commencer par écouter la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, dont est tiré le thème d'aujourd'hui que je viens de vous citer, là, c'est tiré de Jean, chapitre 20, versets 19 à 21. Ça se situe peu après la résurrection du Seigneur, alors qu'il est apparu aux 11. Après avoir apparu aux femmes, à Marie-Madeleine, aux femmes qui s'étaient rendues pour l'embaumer, etc., là, il est apparu aux 11. Écoutons ce récit.
Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison dont ils avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les Juifs. Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Après avoir dit ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. »
Merci. Ce n'est pas pour rien que le pape François a voulu inaugurer son pastorat en publiant « La joie de l'Évangile ». Probablement qu'au cours de vos rencontres précédentes, il doit y avoir des conférenciers qui ont puisé là-dedans peut-être un peu, là. J'ai peur de répéter, mais je trouve ça quand même important de le rappeler. La joie de l'Évangile. Ce document-là a une histoire qui est très parlante. C'est une exhortation apostolique signée par le pape François très peu de temps après sa nomination comme pape. Chaque fois qu'il y a un synode, ce qu'on appelle un synode romain, c'est une rencontre d'un certain nombre d'évêques, 200, 250, qui viennent de tous les pays du monde, élus la plupart par leurs pairs, par les autres évêques, là, des différentes conférences épiscopales. Ils se réunissent à Rome autour d'un thème qui a été proposé par le pape après avoir consulté les gens. Des synodes romains, il y en a eu plusieurs. Ça a été institué par le Concile et ça a commencé dès les années 1951-52. Qu'est-ce que je dis là, moi, là? Ça a continué comme ça à peu près à tous les 3 ou 4 ans. Le dernier synode a eu lieu en 1912. En 2012, vous voyez un peu là, comment est-ce que je peux être mêlé des fois. Alors, le dernier synode a eu lieu en 2012. Il avait comme titre Il avait comme titre, je l'ai devant moi ici, là, je vais être obligé d'aller le voir dans le texte. Il fut un temps où ma mémoire l'aurait plus facilement retrouvé tout de suite. En tout cas, ça portait sur la nouvelle évangélisation. Alors, comment mettre en marche la nouvelle évangélisation? Quand on dit la nouvelle évangélisation, ça fait longtemps que l'expression est lancée, ça a été lancé déjà par Jean 23 et surtout par Paul VI. La nouvelle évangélisation, ça veut dire ceci. Il y a beaucoup de peuples qui ont été évangélisés, mais en raison de courants de pensée, et en particulier des courants de pensée sécularisants, on en est venu, même dans ces pays qui ont été évangélisés, à considérer que ça c'est un accident de l'histoire, qu'on a été évangélisé, ça n'a pas d'importance. Maintenant, on a découvert tellement d'autres affaires, on n'a plus besoin de ça, la religion, puis la foi, là, on se débarrasse de ça. On est obligé de constater que l'Évangile qui nous a été annoncé n'a peut-être pas été annoncé d'une façon que ça puisse résister à cet assaut des forces de sécularisantes. Alors, il faut une nouvelle évangélisation. Il faut qu'on représente à nouveau la foi à des gens qui sont plus instruits qu'autrefois, qui ont été influencés par tous ces courants-là et qui ont peut-être eu une foi de charbonnier, comme on dit des fois, là, mais qui n'étaient pas suffisamment ancrés dans la parole de Dieu. La nouvelle évangélisation, elle s'adresse aux décrocheurs de notre religion, aux décrocheurs de la foi, pour qu'ils retrouvent une signification plus profonde, plus convaincante de l'enseignement de l'Évangile. C'est ça, la nouvelle évangélisation. Et le synode, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Tous ces évêques-là, là. Alors, il est arrivé, après le synode, comme on fait habituellement, qu'un comité a été formé pour faire un résumé de toutes les délibérations puis des propositions qui avaient été votées là au cours de cette rencontre qui dure habituellement 2 à 3 semaines. Et puis, on a remis ça au pape. Mettez-vous à sa place, il vient d'être nommé. Je suis même pas en mesure de vous dire, moi, s'il était là, lui, au synode, peut-être même pas. On lui remet donc un document, et puis c'est à lui à le retoucher s'il le désire. Non seulement il l'a retouché, mais il en a profité pour qu'il mette, il y intègre ce que j'appellerais son programme pastoral. Ce que j'appellerais, qu'est-ce que je veux faire comme pape, moi? Qu'est-ce que je voudrais qu'il se passe pendant que je vais être pape? Alors, il a tout mêlé ça à un document qui existait déjà. Quand on le lit, on s'en rend bien compte. Hein. On se rend compte que tout à coup, là, ah, ça, il n'y a quasiment pas de citation en bas de la page, là. Ça veut dire que c'est lui qui a écrit ça, là. C'est le pape qui a ajouté ça. Puis alors que d'autres endroits, on se rend bien compte que c'est des propositions qui viennent des évêques. Ça fait un document qui, au plan strictement littéraire, est un petit peu bancal, un peu surprenant. Moi, j'avais dit dans une conférence que j'ai faite à la blague, évidemment, moi, si j'avais eu à corriger ce devoir que me remet le pape, comme les étudiants le faisaient quand j'étais professeur, j'aurais lu ça, puis j'aurais dit, oh, il y a des belles choses, mais la note sera pas très forte. Parce que la fusion de ce que le pape voulait passer à son compte, et puis ce qu'il a ramassé des évêques, là, on voit bien que ça ne rentre pas facilement. Tu passes d'un paragraphe à l'autre, à un moment donné, puis ça te surprend un peu. Hein. Alors, quand on corrige une dissertation d'élève, ben là, on dit, « Ah, t'as des bonnes idées, mais ça manque un peu là de suite, là, c'est pas trop... » Ben, je dirais ça un peu, de la joie de l'Évangile. Mais quelle richesse de contenu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, c'est un document que je qualifierais d'hybride, c'est-à-dire qu'il y a comme deux types de contenu, difficilement mis ensemble, mais quelle richesse! Et je pense que jamais une exhortation apostolique suite à un synode n'a connu autant de faveurs. C'est incroyable le nombre de sessions de retraite qui partent de la joie de l'Évangile. Ça montre qu'on en reconnaît la richesse extraordinaire. Or, dans les tout premiers numéros, les 9 premiers numéros, et plus particulièrement dans les numéros 4 et 5, le pape cite des passages de l'Écriture où il est question de joie. Moi, quand j'ai lu ça la première fois, ça m'a frappé parce que dans mes notes, j'avais une dizaine de pages où j'avais fait le même travail. J'avais parcouru toute la Bible pour prendre des passages où il était question de joie. Alors, lui a fait la même chose, et puis il a gardé un certain nombre de citations. C'est vraiment remarquable. Et parmi les citations de la Bible qu'il a retenues, il y en a une qui était tirée du passage que on a lu tout à l'heure. Tiré de Jean. Les disciples étaient pleins de joie. Mais le mot « joie » revient très, très souvent dans la parole de Dieu. Pour m'en tenir à Nouveau Testament, puis d'une façon très rapide, il est question de joie dès l'Annonciation. Marie, qui reçoit le message qu'elle va être la mère de Dieu, et elle accueille ce message avec grande joie. Elle rend visite à sa cousine Élisabeth. Et là, elle éclate de joie, et c'est son Magnificat. Et j'aime à signaler que quand nous disons le chapelet et que nous reprenons justement un passage de cet épisode de la visitation de la Vierge. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Nous autres, on dit dans l'Ave Maria, là, Sainte Marie, Mère de Dieu, je te salue, Marie, Mère. Mais en réalité, la façon de saluer en latin, c'était Ave. Et Ave, ça voulait dire sois joyeuse. Sois heureuse. Nous autres, on dit « Je te salue, Marie », parce que c'était la façon de saluer du temps de Jésus. Mais en réalité, le salut, quand on saluait, on disait « Sois heureux, sois heureux, sois heureuse ». Vous voyez? De sorte que quand vous récitez votre chapelet, il n'y a rien qui vous défend de prendre cette formule-là. Puis moi, personnellement, je dois vous dire que c'est la formule que je prends. Sois bénie, sois heureuse, Marie, comblée de grâce. C'est beaucoup plus proche des textes même de l'Écriture. Alors, la joie, là, c'est partout dans la parole de Dieu. Mais là où c'est le plus remarquable, c'est dans ce que la parole de Dieu nous rapporte au moment de la résurrection. Et puis, avant de passer un chant, là, qui vous permettra de nous reposer un peu, là, je m'aperçois que j'ai, j'ai digressé pas mal. Je vais vous les mentionner. J'ai tellement digressé que je ne me retrouve plus sur mes notes. Ça va revenir. Autour de la résurrection, ce qui est à remarquer, c'est que la résurrection a d'abord été source de peine, de déception. Et par la suite, lorsque le Christ lui-même s'est révélé, là, ça devenait source de joie. Comme j'ai abusé un peu de votre temps, là, je vais y aller un peu en raccourci, là. Mais si je résume, c'est vraiment remarquable. C'est remarquable que tant que Jésus ne s'est pas révélé, on est dans la tristesse, dans la crainte, même dans l'effroi. Pensons dans les récits évangéliques, les gardes qui avaient été chargés de surveiller le tombeau. Ils s'aperçoivent que le tombeau est vide. Eux autres, là, ils sont dans l'effroi parce qu'ils disent « on va passer pour avoir mal fait notre job ». Pourtant, Jésus était parti sans se manifester. Il n'était pas responsable. Et puis, ce qui est encore plus surprenant, c'est que les premiers témoins de la résurrection ont toujours des réactions de tristesse. Marie-Madeleine, qui découvre que son maître n'est plus là, et puis elle pleure amèrement. Ils sont venus me le voler. Les femmes qui viennent l'embaumer découvrent qu'il n'est plus là, et elles aussi sont saisies d'effroi, nous dit la parole de Dieu. Les apôtres Pierre et Jean arrivent à leur tour au tombeau, on les prévient que le Christ n'est plus là. Ils voient les traces, là, le suaire qui restait là. Et eux aussi ont une réaction de peine, parce qu'ils disent, non seulement le Christ est mort sur la croix, notre chef, là, on l'a vu mourir, bien là, on n'a même pas le bonheur de pouvoir dire qu'au moins on a encore son corps. Mettez-vous à leur place, là. C'est normal qu'ils aient eu cette réaction-là. Tant que Jésus n'est pas présent, tant qu'il ne s'est pas manifesté, c'est la tristesse, c'est l'effroi. Mais lorsque Jésus se manifeste, là, tout change. J'aurais pu vous citer des témoins des disciples d'Emmaüs, c'est la même chose. Les disciples d'Emmaüs, ils sont dégonflés. Jésus les rejoint. Puis là, il se met à parler avec eux. Ils entrent manger avec eux. Puis là, les disciples disent, « Ah ben, nous autres, on a eu une grosse déception. » C'est que on pensait là, que Jésus là, serait notre Messie, notre libérateur. Ça a mal tourné, son affaire. Ils ne le reconnaissent même pas. Ça, c'est un peu surprenant. Et c'est la loi un peu générale. Au départ, on ne le reconnaît pas. Ça embête beaucoup les exégètes. Comment ça se fait que Jésus, ressuscité avec son corps, comment ça se fait qu'on ne le reconnaît pas? Il y a toutes sortes d'interprétations. Il y en a qui disent qu'il était tellement désolé, découragé, qu'il ne prenait même pas le temps de le regarder comme il faut. Là, ils étaient... Bon. Ça peut être vrai pour une ou l'autre. Disons Marie-Madeleine, par exemple. Puis, mais d'autres disent, Jésus était ressuscité, c'était bien son corps, mais c'était un corps ressuscité. Et quand on y pense, étant donné que Jésus a dit qu'on ressusciterait comme lui, moi, j'espère bien que quand je vais ressusciter, je vais retrouver un corps meilleur que celui que j'ai actuellement. Et alors, ça peut être normal que même le corps de Jésus était un peu transformé, je dirais, était à son meilleur. Et portait quand même des cicatrices, comme c'est normal, vu que son décès était récent. En tout cas, peu importe, là, mais ce qui est remarquable, c'est que même s'il y a des petites divergences entre les récits de Luc, de Marc, de Matthieu puis de Jean, et ça c'est un peu normal, hein, étant donné que les évangiles ont été composés à partir de la tradition orale. On n'avait pas d'enregistreuse dans ce temps-là, on n'avait même pas de sténo. Alors les gens qui ont rapporté les discours de Jésus, qui ont rapporté les faits, l'ont rapporté de mémoire, ça a été communiqué aux autres. Et vous savez qu'est-ce qui arrive quand on raconte quelque chose, l'autre qui va le raconter après, il y a des chances qu'il va mettre peut-être des petits changements, même sans s'en rendre compte. Ça explique qu'entre les récits évangéliques, il puisse y avoir des différences. Il n'y a rien de scandaleux là-dedans. Au contraire, c'est la preuve que l'Église n'a pas essayé de manipuler ça pour essayer de camoufler les différences. On les a laissés comme ça. Et dans le cas de la résurrection, c'est vraiment remarquable. Il est question parfois d'un ange, de deux hommes, l'autre un homme, deux hommes. Il y a des différences de ce genre-là. Mais il y a quelque chose de commun. C'est que tant que Jésus ne se révèle pas comme ressuscité, c'est le désarroi, c'est la tristesse. Mais dès que Jésus se révèle et qu'on le reconnaît, et qu'il leur dit, « Mais voyons, je vous l'avais dit que je ressusciterai. » Là, c'est la joie. Les apôtres sont comblés de joie. Les disciples d'Emmaüs disent, « Ah, ils l'ont reconnu à la fraction du pain. » Puis là, ils disaient, « Il me semble qu'on sentait quelque chose en nous, là. On avait le cœur tout chaud, mais on n'arrivait pas à le croire. Ça ne pouvait pas être possible de ressusciter. » Pensons-y. Ce n'est pas un phénomène régulier, ça, de ressusciter. Puis même par rapport à notre résurrection à nous, les gens vont dire bien souvent, puis c'est vrai, il n'y a personne qui est venu nous le dire. Puis il n'y a personne qui est venu nous trouver après, ressuscité. C'est bien beau y croire, là, mais... Bienheureux qui croit sans l'avoir vu. Bienheureux qui croit sans l'avoir vu. Ça, c'est la phrase cruciale. Et cette joie de croire, elle est manifestée dans tous les récits, qu'il s'agisse des apôtres, des disciples d'Emmaüs, de Marie-Madeleine, des femmes qui sont allées annoncer avec joie. Le terme revient régulièrement, ce qui me permet d'affirmer que la foi dans la résurrection du Christ et dans la nôtre, qui sera au modèle de la résurrection du Christ, c'est la source majeure de notre foi. On va s'arrêter un petit moment, ma deuxième partie sera plus courte, et puis on va exécuter un couplet du chant de Richard Vidal, je pense, hein, si j'ai bien compris.
Thank you.
Alors, je reconnais la composition de Richard Vidal. Je vous dis ce que je disais plus secrètement tout à l'heure en conversation. Richard Vidal est mon ancien élève. Alors, j'étais professeur de grec à cette époque-là. Et puis, Richard n'était pas précisément un intellectuel. Je ne peux pas dire qu'il a été un élève avec des notes stupéfiantes. Il a réussi à faire son cours classique et lui-même reconnaîtra facilement que ça a été parfois un petit peu laborieux. Et puis, je trouvais déjà à ce moment-là qu'il était bien perdu dans la musique. Il avait un talent fou, hein. Et puis, lui, là, quand il s'évadait dans la musique, puis, ben, je le morigenais de temps en temps pour lui dire, ben, attention, il faut que tu réussisses tes études quand même. Alors, dans une rencontre que j'ai eue il y a quelques années, ça avait été assez spectaculaire, je lui avais demandé pardon d'avoir risqué de nuire à son talent en ayant l'air de l'empêcher de développer ses aptitudes pour la musique. Puis il avait eu la délicatesse, puis je pense que c'est franc, il avait eu la franchise de me dire, bien, je pense que si vous ne m'aviez pas contrôlé, je serais peut-être venu un chanteur bien ordinaire, là. Alors que maintenant, je suis au service de mon Église, et puis c'est la source principale de ma satisfaction intérieure. Alors, bon, je vous raconte ça parce que vous venez de chanter une de ses compositions, et ceux qui le connaissent, ceux et celles qui le connaissent, savent sa générosité. Alors, je n'ai qu'un petit 10 minutes, je vais m'en tenir à ce 10 minutes, et je vais conclure. Je reviens un peu plus dans le détail avec ce que je vous disais tout à l'heure. À savoir, personne n'a vu Jésus sortir du tombeau. Personne n'a vu Jésus sortir du tombeau. Tant que les témoins du tombeau vide n'ont pas vu Jésus ressuscité, les sentiments qui les habitaient, c'était la frayeur ou la tristesse. Pour prendre les mots même de la parole de Dieu, les gardes sont morts de frayeur. Les femmes se demandent qui va rouler la pierre. Quand elles voient que la pierre est roulée et que l'ange est assis dessus, elles sont saisies de frayeur. Quand elles voient les deux hommes, selon Luc, parce que Marc avait juste un homme, puis Luc en a deux, hein. Quand elles voient les deux hommes, selon Luc, elles sont saisies de crainte et regardent à terre. Autant dire, ils sont gênés devant ces deux hommes-là qui pourtant viennent leur annoncer que le Christ est ressuscité. Les disciples d'Emmaüs sont dégonflés tant qu'ils n'ont pas reconnu Jésus à la fraction du pain. Jacques et Jean sont étonnés de voir le tombeau vide. Et au départ, les 11 sont d'abord stupéfaits et épouvantés. Et comme Thomas n'était pas là, lui, il voulait même pas le croire lorsque les autres ont dit « on l'a vu ». Et Jésus leur apparaîtra une seconde fois. Il y a des fois qu'on exagère peut-être un peu, en laissant entendre que c'était pour dire à Thomas, là, hey, toi, hein, là, là, là. Mais c'était surtout pour préparer ses disciples à prêcher la résurrection. La résurrection, c'est ce qui est de. Saint Paul disait, si le Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine. C'est fort, ça, hein? C'est fort, mais c'est très vrai. La foi dans la résurrection, c'est le cœur de notre foi. Et il en est de même de la foi dans notre propre résurrection. Et les onze, lorsqu'ils auront vu Jésus, qu'ils auront accepté le phénomène de la résurrection, eux aussi seront dans la joie. Même quand Jésus va leur apparaître pour l'ascension, ils avaient toutes les raisons d'avoir de la peine de le voir partir. Mais l'Écriture nous dit, ils retournèrent à Jérusalem la joie dans le cœur. Parce que la résurrection, c'est source de joie. Lorsqu'on en comprend toute la dimension. Et ça se vérifie. Ça se vérifie par rapport à notre foi dans la résurrection. Regardons nos mœurs funéraires. Là, j'ai une cousine qui est décédée, là. Ça me fait de la peine parce que j'y étais bien attaché, puis c'était une sainte. Elle va avoir ses funérailles lundi, là. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais moi qui fais à peu près 2 salons funéraires en moyenne par semaine, je suis à l'âge où les gens de nos connaissances nous quittent, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et il est arrivé parfois d'entrer dans des salons où on avait décoré tout le mur derrière le cercueil avec des fusils de chasse puis des lignes de pêche. Puis une façon de rappeler ce qui faisait l'intérêt du défunt. Puis je me disais à moi-même, mon Dieu, comme on est donc tourné vers le passé. Et lorsque on est tourné que vers le passé, on a bien de la difficulté à saisir le message de la messe des funérailles quand elle a lieu et qui est centrée sur la résurrection. Lundi, comme j'aurai à faire l'homélie, je me propose de faire ressortir ça d'une façon particulière. Et j'aurai la chance que ça puisse s'appliquer à une personne qui était croyante, puis très croyante. Ça, c'est du bonbon d'avoir à faire l'homélie lorsque ce qu'on a à faire passer comme message est illustré par la vie de la personne qui est concernée. C'est dur à admettre la résurrection. C'est d'autant plus difficile que ça peut être source de joie. Un peu comme dans tout ce que je vous ai dit, la résurrection, au départ, c'est dur à croire. Puis, tant qu'on ne l'a pas touché du doigt, alors qu'on n'a pas vu le Christ ressuscité, c'est la foi qui nous permet de croire dans Jésus ressuscité, nous. Les apôtres l'ont vu, eux, là, de leurs yeux vus. Quant à nous, c'est dans la foi que nous y croyons. Et c'est important d'y croire. Et là, on voit l'importance de ça à partir des réactions des gens devant la mort. Moi, quand je visite les salons funéraires, presque chaque fois, j'entends des propos à peu près comme ceci. Ou bien, chanceux, il est parti vite. Ou bien, pauvre lui, pauvre elle, c'était bien le temps que ça finisse, qu'elle a donc souffert. On entend ça très régulièrement. Bien, ce sont des constats qui sont normaux. On n'aime pas la souffrance. Mais c'est à courte vue. Puis moi, quand j'écoute ça, je me dis toujours, bon, parfois quand ça s'y prête, ça m'arrive de dire, ben oui, bien sûr que c'est dur à avaler, mais il y a autre chose après. Et là, je constate que pour les gens qui ont la foi dans la résurrection, leur propre résurrection, c'est tellement différent. C'est tellement différent. C'est pour ça que je vous dis que la foi dans la résurrection de Jésus est la nôtre, c'est la principale source de joie. Vous savez, là, quand on entend ça souvent, là, « Oh, ben moi, la résurrection, c'est fini, hein, dans le trou, ça finit là. » Mon Dieu, quand j'entends ça, moi, là, ça me sidère. Hein. Puis je me dis, « Pauvre lui, pauvre elle. » Ne pas connaître la joie de la résurrection par anticipation. Ne pas avoir compris comment l'Évangile est rempli de joie et que les joies qu'on ressent dans l'Évangile, qui sont signalées dans l'Évangile, sont toujours des joies conséquentes à un progrès dans la foi. Et je vous dis, mes chers amis, heureux, heureux êtes-vous d'avoir la foi. C'est la plus belle richesse. Je suis obligé de vous dire que, malheureusement, les personnes les plus fermées à la foi dans la résurrection sont souvent des personnes qui ont eu une vie très centrée sur les affaires, sur le pouvoir, sur les valeurs qu'on n'emporte pas en paradis, des valeurs qui finissent avec la vie. Et ces personnes sont d'une pauvreté. Moi, ça m'amène à prier pour elles et pour eux. Et je vous dis, vous qui êtes ici ce matin-là, vous qui êtes venus écouter la parole de Dieu, vous qui allez réfléchir sur la parole de Dieu après-midi, heureux, heureux êtes-vous. Heureux, heureux êtes-vous. Et en faisant l'adoration, en allant prier devant le Saint-Sacrement, quand même que vous n'auriez que ça à dire à Jésus. Je termine par une anecdote, un peu pour vous amuser, mais en même temps pour illustrer ce que je viens de dire. Quand j'étais en fonction, j'aimais beaucoup visiter, à l'occasion des visites pastorales, les maisons pour personnes âgées. Et je me rappelle, entre autres, d'une visite que j'avais faite au centre de Lourdes, dans Saint-Sauveur. Alors, les gens étaient autour de moi, et puis je les avais fait se présenter. Et puis, dans mon petit daïus, là, j'avais essayé de décrire un peu ce qu'ils ont eu à vivre avant d'en arriver là. Puis là, je leur disais, ben vous avez été obligé de vivre certains dépouillements. Vous avez été obligé de vendre la maison que vous aviez peut-être construite. Et puis, là, vous avez été réduit à une chambre, un des conjoints est parti. Et puis là, ben, votre santé a pu commencer à décliner. Ça a été la canne, ça a été la marchette, ça a été le fauteuil roulant. Il y en a souvent qui sont en fauteuil roulant. Bon. Mais, si vous avez la foi dans la résurrection, si vous savez qu'il y a une vie meilleure que vous attend, ça change beaucoup les choses. C'est un peu le message que je leur donnais. Après, ben, j'avais demandé aux gens de réagir s'il y avait quelque chose à dire. Il y a une femme qui avait levé la main et qui avait dit, « Monseigneur, dans votre description, il y a une affaire que vous avez oubliée. » Ah bon? C'est quand on a eu 5 enfants puis on n'a même pas le cœur de venir nous voir. Oui, oui, oui. Alors, j'étais un peu stupéfié, là. Je me souviens même pas de, je sais même pas si j'étais capable de dire quelque chose. Là, c'est... Par ailleurs, il y avait une autre dame qui m'avait très bien écouté. Là. Et puis quand je suis arrivé à elle, je lui ai dit, mais madame, vous avez l'air en bonne santé, vous avez l'air, oh, vous êtes toute souriante, et puis, bonne santé, non. Souriante, oui. Oui. Parce que, moi, j'ai la foi. Puis je vais vous dire une chose. Quand je vais arriver au ciel, là, Saint-Pierre, moi, je vais partir à course, puis je vais aller me jeter dans les bras du Seigneur. Bon, évidemment, elle a esquissé un sourire après avoir dit ça, parce qu'il y avait un peu d'humour là-dedans. Alors, je suis entré dans le jeu, puis je lui ai dit, « Vous pensez que Saint-Pierre va vous laisser passer comme ça, là? Hein? » Oui, 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 oui. À l'âge qu'il a, là, il ne sera pas capable de me rattraper. J'avais trouvé ça charmant, hein, de bonne humeur, d'humour. Mais de foi, là, simple, de, hein, mon Dieu, que c'est donc beau. Hein, c'est donc beau. Alors, la joie de croire, la joie de croire. Quelle chance qu'on a de croire. Et ce document du pape François, je dirais que ça déborde de joie. Pas pour rien que c'est la joie de l'Évangile. Je suis sûr qu'il a choisi le titre. Ça n'aurait probablement pas été ce titre-là si ça avait été un document, une exhortation comme les autres, comme on en a eu un bon nombre, une quinzaine avant. Là. Il y a une touche particulière. Et puis, je finis en vous donnant un autre enseignement là, que vous avez entendu parler beaucoup de son encyclique, là, hein, qui vient de paraître, là, sur l'écologie. Dans la joie de l'Évangile, il y a un passage où il annonce pratiquement son encyclique sur l'écologie. Parce que quand j'ai lu ça, là, à un moment donné, je suis retourné à la joie de l'Évangile, et puis il y a un beau petit passage là, qui résume tout à fait l'encyclique qui vient de paraître. Et ça porte sur le respect de la nature, sur le gaspillage éhonté de la nourriture, alors qu'il y a tant de monde qui manque de nourriture. Pensons-y, là. Il y a 1 million d'enfants qui meurent par année de faim. Dans notre monde, 1 million d'enfants meurent chaque année par manque de nourriture, soit manque total ou à cause d'une nourriture. C'est une nourriture infecte qui n'est pas conforme à la... C'est terrible. Et puis, pendant ce temps-là, là, il y a des milliardaires. Puis le pape est très dur pour eux. Il ne faut pas se surprendre que certains politiciens aux États-Unis, des milliardaires, là, qui se présentent pour devenir président, là, c'est pas étonnant qu'ils disent « Le pape, il se mêle de ce qu'il ne regarde pas. » Ben voyons donc, quand il y a du monde qui meurt, c'est un problème moral. C'est un problème d'éthique. C'est pas rien qu'un problème scientifique ou un problème financier. Ben, le pape a cette audace. Et ça aussi, ça me comble de joie. Merci Seigneur de m'avoir fait vivre assez longtemps pour avoir connu la joie de l'Évangile et l'encyclique Laudato Si. « Mio Signore », c'est le titre en italien, c'est tiré du cantique de François d'Assise, le cantique qu'on appelle souvent le cantique du soleil, c'est le cantique de la nature, là, hein. « Sois loué, Seigneur, sois loué, mon Seigneur, laudato si, mio Signore », un texte extraordinaire. Je l'ai lu tout d'un bout entre 6h30 puis 9h30, l'avant-veille de sa parution sur mon ordinateur. Là. Oh, extraordinaire. Merci Seigneur pour tout ça.